Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous écouter sur Canal Académie. Jean-Pierre Bablon de l'Académie des inscriptions et belles-lettres est avec nous pour évoquer l'affaire du crâne d'Henri IV. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Merci d'être venu dans notre studio, nous sommes très honorés de votre présence. La commémoration du quadricentenaire de la mort d'Henri IV a été marquée par un coup de théâtre, la découverte de la tête d'Henri IV. S'agit-il du vrai crâne du premier Bourbon ? La cause paraissait entendue. Pour le crâne d'Henri IV, les preuves paraissent multiples et convergentes. Et pourtant, malgré ce faisceau d'indices troublants, certains historiens et journalistes émettent des doutes sur l'authenticité du crâne. Jean-Pierre Bablon, vous qui êtes un historien moderniste, spécialiste d'Henri IV, quelle est votre position au sein de cette polémique ?
Je voudrais d'abord souligner une chose tout à fait étonnante, c'est que c'est à l'issue de nos manifestations de l'année Henri IV que la révélation de cet objet extraordinaire se fait à nos yeux. Bon, bien sûr, nous avons travaillé pendant 2 ans à peu près sur ce problème, ce dossier extraordinaire. Et puis finalement, bon, les preuves arrivent à s'accumuler, à constituer un dossier positif, vraiment intéressant. Et c'est effectivement à la fin de cette année de commémoration.
Vous avez travaillé pendant 2 ans. Quelle est la genèse ?
C'est une genèse tout à fait extraordinaire. Bon, c'est un véritable roman policier, n'est-ce pas ? Qui aurait beaucoup amusé Henri IV de son vivant, c'est ça que je me plais à dire. C'est un dernier souvenir que le premier Bourbon nous adresse. Comme j'habite depuis que j'ai quitté le château de Versailles, j'habite Montmartre. Il se trouve que j'ai noué des relations avec des personnes de mon immeuble, avec la société du Vieux Montmartre et le musée du Vieux Montmartre. Et j'ai appris à ce moment-là qu'un monsieur, un collectionneur, avait pris contact avec le musée du Vieux Montmartre pour avoir certains renseignements sur une tête d'Henri IV qui aurait appartenu à un ancien collectionneur montmartrois qui le montrait dans son atelier à côté de la place du Tertre. Alors, par ces liens, n'est-ce pas, j'ai eu un jour à répondre à ce collectionneur qui me disait « Mais je sais que vous avez quelques renseignements là-dessus, ou plutôt une information d'un article sur la légende d'Henri IV. Est-ce que vous pourriez me la communiquer ?» Je l'ai communiqué et j'ai gardé la lettre de ce monsieur. Et puisque, après ça, lorsque j'ai reçu 2 journalistes de la télévision qui voulaient monter un film pour la télévision sur Henri IV, bon, nous avons discuté de choses et d'autres. Et puis, en feuilletant mon dossier sur mon bureau, ils étaient là à me prendre à l'écran. Je lui ai dit, j'ai cette lettre. Et puis, ça se combine probablement avec cette étonnante revue d'actualité de Montmartre des années 30, qui montre quelqu'un dans son atelier, encore une fois, à côté de la place du Tertre, en train de montrer la tête d'Henri IV. Et alors, ceci a fini par intéresser les 2 journalistes, Stéphane Guimbet et Pierre Belay, qui montaient l'opération. Bon, nous avons terminé pour le film. Puis après, ils sont revenus. Ils me disent, mais écoutez, on aimerait bien tout de même poursuivre un petit peu ça. Alors, je leur ai donné les informations d'après la lettre de ce monsieur. Ils se sont rendus chez ils ont téléphoné, puis ce monsieur a accepté de les recevoir dans l'est de Paris, côté de Châteaudun. Et puis ce monsieur leur a dit, je vais vous avouer, cette tête d'Henri IV qui apparaissait chez un collectionneur dans les années 30, c'est moi qui l'ai. Alors, stupéfaction, n'est-ce pas ? C'est de la blague, bien évidemment, voilà. Et puis on a continué, et alors on a fait entrer dans le cercle des chercheurs un homme tout à fait extraordinaire, qui est le docteur Philippe Charlier, qui est un médecin anatomopathologiste et qui a pu identifier véritablement des restes d'une façon très spectaculaire, des restes funéraires dans les années précédentes. Et notamment, il a pu identifier, savoir comment étaient mortes Agnès Sorel et Diane de Poitiers.
qui, Agnès Sorel, par parenthèse, est morte au mercure.
Oui, à l'or, je crois. Traitement à l'or, empoisonné par des particules d'or, je crois, il me semble. Donc ce docteur Philippe Charlier, jeune homme extraordinairement brillant, qui est entouré d'une équipe de 8 à 10 personnes, a examiné l'objet, n'est-ce pas ? Il l'a examiné d'abord en photographie, puis après ça, il l'a eu en main. Nous l'avons vu en main, n'est-ce pas ? C'est la première fois que j'ai vu ça dans ce coffret.
C'était assez émouvant, n'est-ce pas ? Oui.
Et on l'avait présenté dans le musée de la faculté de médecine, rue de l'école de médecine. Et puis, il l'a effectivement gardé dans ses laboratoires. Il l'a examiné dans tous les sens. Donc, à ce moment-là, vous comprenez, nous avons eu... Bon, d'abord, la filiation, bien évidemment, entre le possesseur que nous connaissions d'après ses imprimés, qui s'appelait Joseph-Émile Bourdet, qui est mort en 1947, et puis l'actuel possesseur, dont je peux maintenant dire le nom, Jacques Bélanger, qu'il a acheté à la sœur d'Émile Bourdet en 1955. Donc, une double recherche s'est faite. Une recherche des médecins, n'est-ce pas, pour analyser comment se présente la tête, quels sont les rapports que la tête a avec les images si nombreuses d'Henri IV, quelle est aussi la configuration du crâne comparée dans les volumes avec les masques mortuaires qui avaient été fondus au moment de la mort d'Henri IV en 1610, premièrement. Et deuxièmement, une recherche, je dirais, d'archives, une recherche documentaire qui s'est faite sur comment avait-on trouvé Henri IV au moment de tout ce qui s'est passé dans l'abbaye de Saint-Denis, au moment où on a...
Alors, que s'est-il passé ? C'était en 1793.
Voilà, exactement, en 1793. Et les foules révolutionnaires se sont jetées sur les tombeaux des rois à l'abbaye de Saint-Denis, n'est-ce pas ? Il y avait un
ordre. Dans la crypte, n'est-ce pas ?
Dans la crypte. Tout à fait. Et il y avait deux buts qui étaient donnés par les autorités de la Convention. Premièrement, détruire les monuments des monarques Onni, n'est-ce pas ? Alors détruire les monuments eux-mêmes, les monuments sculptés, et puis après ça, s'en prendre au cercueil qui était à l'étage en dessous, si j'ose dire, dans la crypte, premièrement. Et deuxièmement, comme on savait que les cercueils des rois était en réalité constitué de la manière suivante, c'est-à-dire que le premier environnement du roi défunt était une bière en plomb qui était enfermée ensuite dans un cercueil en bois, tout ça posé sur des tréteaux. Le plomb était évidemment très intéressant pour fondre des balles pour les armées de la Révolution. Donc il y avait un double but, n'est-ce pas ? Bon, jeter en l'air les ossements et récupérer le plomb. Donc nous avons des procès-verbaux de ce qui s'est passé à ce moment-là, et puis nous avons des procès-verbaux aussi de ce qui s'est passé au moment où Louis XVIII a décidé d'aller rechercher les restes des corps et leur donner une sépulture plus digne des rois de France dans Saint-Denis.
Oui, parce qu'à la Restauration, il y a eu une sacralisation, de nouveau une sacralisation des corps de la dynastie.
Bien sûr, voilà. Dans la crypte des Valois ou des Bourbons, vous pouvez encore passer en souterrain et voir les cloisons derrière lesquelles sont enfermés les restes qui ont été retrouvés.
Alors, Henri IV,
la question était évidemment de savoir exactement comment s'était passée la profanation des restes d'Henri IV en octobre 1793.
Quelles sources avons-nous ?
Alors, nous avons des sources qui ont été utilisées par certains historiens qui ne connaissaient pas tous les documents et qui ont utilisé des documents qui sont aux archives de Paris. Il se trouve qu'une sorte de commission avait été constituée à ce moment-là pour assister à l'événement et voir les corps retirés de leur cercueil. Et il y a donc plusieurs versions de ce texte. Et grâce à Monsieur Bruno Galland, qui est directeur scientifique des Archives nationales pour le de Paris, grâce à Monsieur Galland, nous avons pu avoir connaissance des véritables originaux de ces procès-verbaux et ce qu'on appelle le journal autographe de l'extraction des cercueils, dont la première version a été rédigée par Don Druon, qui était un ancien bénédictin de l'abbaye de Saint-Denis, et qui a rédigé lui-même, il a voulu rédiger, avec des témoins à ses côtés, ce journal du 12 octobre 1993.
On peut penser que c'est fiable, parce que cet homme avait un désir de véracité.
Absolument, et voilà, de respect de ce qu'on trouvait, d'honnêteté, n'est-ce pas ? Bon, ce n'était pas un commissaire envoyé par la Convention, c'était un témoin, ancien moine de Saint-Denis, qui se trouvait là pour l'ouverture. Et alors, il se trouve que après ça, d'autres versions ont été écrites, reprenant exactement le texte, mais, alors c'est là que nous avons le problème, mais l'une d'elles, une seule, qui est l'œuvre, une version d'un officier de la garde nationale qui s'appelait Tintoin, qui est une version plus tardive, ajoute un élément à la description qui a été donnée de la révélation du corps d'Henri IV, c'est de dire qu'il avait le crâne scié. Or, la tête que nous avons donnée à examiner à M. Philippe Charlier ne présente pas le crâne scié. La question est double. Premièrement, est-ce que le témoignage de M. Tintoin qui ajoute simplement ce paragraphe à la description de Don Druon, d'où nous avons l'original dans l'armoire de fer, dans le dossier de l'armoire de fer. Et j'ai eu encore en main ces documents il n'y a pas longtemps, qui sont vraiment des documents sur du papier ancien, signé, paraffé, etc. Alors que le document d'un Tintoin, nous en avons un élément copié au moment de la restauration.
Mais l'armoire de fer est aux archives ?
Oui, tout à fait. Il se trouve que dans ma carrière diversifiée, comme conservateur du musée d'histoire de France, j'ai eu à avoir l'armoire de fer dans mes fonctions, le conserver. Je me rappelais, j'avais le trousseau de clés, n'est-ce pas ? J'étais à peu près le seul aux archives à pouvoir utiliser le trousseau de clés, puisque certaines des trois serrures étaient des serrures à secret. Donc, il fallait exactement introduire, d'une certaine manière, la clé dans l'armoire de fer. Et c'est donc dans cette série d'armoire de fer que se trouvent ces documents majeurs pour l'histoire de la monarchie.
Alors, faisons une petite parenthèse encore. L'armoire de fer date de quelle époque ?
Ah, c'est une armoire de fer qui avait été aménagée par l'Assemblée nationale pour conserver les documents. Vous savez peut-être que les archives nationales ont comme origine les archives de la nation constituées par d'abord les procès-verbaux et décisions des assemblées révolutionnaires. Et pour conserver dans les meilleures façons possibles ces documents extraordinairement précieux pour l'histoire de la Nouvelle-France, on avait imaginé de les enfermer dans une armoire de fer à plusieurs portes et plusieurs niveaux. Et cette armoire, qui était dans les locaux des premières assemblées nationales, a été transportée lorsqu'on a aménagé les archives nationales dans le palais Soubise.
À quelle époque ?
Eh bien, elle a été aménagée, elle a été installée de bonne heure, mais surtout elle a été inséré dans ce qu'on appelle les grands dépôts qui ont été construits sous le Second Empire et qui forment cette longue galerie impressionnante de rayonnage en bois avec des balcons au-dessus. Et au milieu, il y a une salle à colonnes dans laquelle se trouve l'armoire de fer.
Cette armoire dont vous avez eu la clé, vous avez pu voir le texte originel.
Oui, nous avons pu voir le texte originel. Bon, c'est assez émouvant, il est certifié, tout ça, et vraiment sur du papier ancien, qui est tout à fait différent du papier qui a été utilisé au moment où on a constitué le dossier du temps de Louis XVIII. Donc, il y avait donc premièrement cette recherche d'archives sur la découverte du corps, bon, ce qu'on avait fait de ce corps. Après ça, il est resté assez longtemps dans la crypte, la foule passait. Enfin, nous avons établi récemment en regardant un petit peu à nouveau tous ces procès-verbaux. C'était peut-être 15, 20 personnes qui ont pu passer, regarder. Certains se sont appropriés des poils de barbe, des dents, n'est-ce pas? Bon, une mèche de cheveux. Et puis, donc, ça, c'est le récit. La deuxième chose, deuxième partie de la controverse, si l'on peut dire, c'est que on considérait, dans comment dire, une tradition historique, que tous les rois de France avaient eu le crâne scié, que c'était la façon de traiter les corps, n'est-ce pas, et d'enlever, façon d'enlever le cerveau de la boîte crânienne.
Oui, alors, détail macabre, excusez-moi, mais scié parce qu'on leur avait enlevé le cerveau.
Oui.
Ils sont décalotés.
Exactement, voilà. Alors, il y avait plusieurs procédés qu'on connaît par des chirurgiens qui ont traité les corps des rois, n'est-ce pas, et notamment au XVIIe siècle. Ou bien on sciait véritablement le crâne pour retirer le cerveau, ou bien on faisait deux trous sur les côtés du crâne et on aspirait le cerveau de cette façon-là en réinjectant ensuite quelque chose. Or, il est évident que ce crâne n'a pas été scié d'une part et qu'il ne porte pas ses percements sur les côtés. Et M. Charlier, en examinant tout ça, s'est aperçu que le cerveau était toujours là. Mais bien sûr, il s'est desséché, il est maintenant le long de la paroi interne du crâne, mais le cerveau est toujours là. Alors, comment est-ce possible? Eh bien, on s'est aperçu, et d'après une citation tout à fait tardive de Lamartine dans l'histoire des Girondins, qu'il a fait paraître en 1847, mais j'ai revu encore tout ce texte de Lamartine qui est très bien documenté justement sur ces journées révolutionnaires d'extraction des corps à Saint-Denis. Il apporte même des éléments que d'autres ne nous apportent pas, mais qui est très documenté. Et au fil de la plume, décrivant le corps d'Henri IV, il nous dit, Henri IV, j'ouvre les guillemets, « embaumé avec l'art des Italiens ». Alors, cette inscription, n'est-ce pas, a fait tilt, bien évidemment. On s'est demandé, mais qu'est-ce qu'il y a de vrai dans tout ça? Et Philippe Charlier s'est informé, il a recherché un petit peu du côté de l'Italie, etc. Et on s'est aperçu qu'il y avait, dans le nord de l'Italie, pas dans le sud, mais dans le nord, et spécialement autour de Florence, une façon de traiter les crânes, pas qui était de les environner avec une espèce de poudre de charbon, n'est-ce pas, et qui faisait que le cerveau se desséchait à l'intérieur sans qu'on ait besoin d'avoir une opération chirurgicale aussi importante. Et donc l'hypothèse a été lancée que peut-être Marie de Médicis n'aurait pas voulu que le crâne d'Henri IV soit percé et qu'elle aurait pu dire « mais nous avons des techniques dans ma famille qui sont tout à fait différentes ». Et sur ce plan, sur cette lancée, Philippe Charlier a fait des recherches. Il les poursuit d'ailleurs, il ne les a pas encore publiées, mais son dossier est très documenté de sa part, pour s'apercevoir qu'un certain nombre de personnes de la famille royale au XVIe et au XVIIe siècle, surtout au XVIIe siècle, n'ont pas eu le crâne scié. Et notamment, ce qui est absolument certain, c'est que la reine d'Autriche avait même laissé presque dans son testament qu'elle ne voulait pas avoir le crâne scié. Donc il y a une nouvelle étude qui est poussée par Philippe Charlier, qui met des petites croix dans les marges en disant un tel, Louis XIII, Gaston d'Orléans, etc. Et on s'aperçoit effectivement que cette méthode italienne a été utilisée à la cour de France.
Oui, grâce aux Médicis.
Grâce aux Médicis.
Je pense qu'on peut faire ce raccourci-là.
Absolument. Donc, alors ça n'est pas une preuve absolue, n'est-ce pas, mais ça lève un petit peu cette interrogation qui était posée, bien évidemment. Alors, le deuxième point, c'est que, je reviens sur ce que je disais tout à fait au début, Philippe Charlier a pu faire, alors, a recherché l'ADN.
Oui, bon. Qu'en est-il alors?
Et puis cet ADN, on s'est aperçu que le corps avait été enfermé trop longtemps dans le plomb et que les particules d'ADN étaient, comment dire, étaient rendues absolument atones et inutilisables. Donc, il a recherché d'autres arguments. Alors, ces arguments, il les a recherchés d'abord dans la configuration même du crâne, je vous le disais, en le comparant au point de vue du volume avec les sculptures, mais surtout avec les moules qui avaient été exécutés sur le crâne du roi au moment de la mort. Et puis, il a fait toutes sortes d'autres recherches. Et ces recherches ont porté sur, d'abord, ce qui apparaissait encore sur la peau, puis il y a encore de la peau sur le visage, bien sûr, toute desséchée.
Je crois qu'il avait des blessures, parce qu'il avait déjà
voilà.
Subi une tentative d'assassinat.
Absolument, tout un thème d'assassinat. Bon, l'attentat de Jean Chastel. bon, oui. qui avait laissé une marque sur une des lèvres, c'est ça, bon. D'autre part, un grain de beauté qu'on voit sur le portrait sur le nez, à la racine du nez. Également, on s'est aperçu qu'il avait un lobe d'oreille percé.
Une boucle d'oreille.
Une boucle d'oreille. Et alors, nous avons recherché ensemble. Je ne sais pas, c'est fréquent qu'on voit des portraits d'Henri IV avec une oreille percée, avec une boucle d'oreille. Mais nous avons trouvé une gravure dans les cartons, précieux cartons de gravure du musée de Chantilly, château de Chantilly. Et bien évidemment, faut pas rappeler que naturellement que Henri de Navarre a été un jeune prince qui a fréquenté la cour des Médicis Catherine de Médicis des Valois pendant assez longtemps, qui était camarade de classe de chasse, etc. d'Henri III, et que comme son père d'ailleurs Antoine de Bourbon, qui portait lui alors une boucle d'oreille, c'est bien visible sur tous ses portraits, il a pu avoir effectivement une boucle d'oreille à un moment qui a laissé une trace dans ce lobe d'oreille. Et puis Philippe Charlier aussi a continué et il a retrouvé des éléments très intéressants sur l'effet, enfin plutôt des éléments de plomb, n'est-ce pas ? La poudre de plomb qui sont venus de cet enfermement si long du corps dans ce cercueil de plomb.
Oui, parce que ça a fait 183 ans, 1610, 1793.
Voilà, donc ça fait long pour cette imprégnation de plomb. Et alors, on a lancé une investigation tout à fait étonnante sur toutes les reliques d'Henri IV qui sont innombrables. Et on a fait des comparaisons justement avec ce qu'on trouvait sur la peau du crâne et ce qu'on trouvait sur des éléments, et notamment une dent, et d'autres éléments qui se trouvent au musée Tavet à Pontoise, et où on sait pertinemment que ce sont des éléments qui ont été arrachés du corps d'Henri IV. Et on s'est aperçu que les éléments chimiques qui s'étaient déposés sur ces différentes reliques étaient exactement les mêmes. Donc vous voyez qu'il y a tout un dossier qui s'est ajouté petit à petit. Le doute qui subsiste, c'est comment expliquer pourquoi est-ce que dans la version du journal autographe des opérations qui se sont faites à Saint-Denis, la version de Tintoin ajoute que le crâne à Tessier. Pourquoi est-ce que Tintoin a fait ça ? Et ce texte de Tintoin a été repris ensuite par Alexandre Lenoir, qui assistait à toutes ces séances, et qui était celui qui a sauvé des éléments lapidaires des tombeaux des rois, puisque, bien sûr, il a été le premier défenseur du patrimoine, qu'il a créé le musée des monuments français, qui est aujourd'hui l'école des Beaux-Arts, et qu'il a transporté là des quantités d'éléments des monuments funéraires de Saint-Denis, qu'on a, au temps de Louis XVIII, remontés dans Saint-Denis même. Mais on s'aperçoit que le Noir était aussi un étrange collectionneur, puisqu'il a vendu un certain nombre de choses qui avaient été trouvées dans les cercueils de Saint-Denis et qu'il avait réuni aussi une fameuse boîte, n'est-ce pas, dans laquelle il a retrouvé, il a mis des omoplates, des tibias de l'un ou de l'autre. Et cette boîte, finalement, a été remise dans la crypte de Saint-Denis où elle est toujours. Donc, il y a des relations un petit peu étranges et notamment avec le musée Tavet de Pontoise dont je vous parlais à l'instant et dont nous avons pu reprendre les archives d'origine en sachant qui avait vendu ces restes, n'est-ce pas ? Donc, l'interrogation reste de savoir exactement quel a été le rôle d'Alexandre Lenoir. Est-ce qu'il n'a pas pu s'approprier un crâne et puis après ça le garder et après ça disposer.
Il n'était pas tout à fait fiable.
Non, c'était pas un homme tout à fait franc, mais enfin nous avons gardé le souvenir du grand défenseur du patrimoine. Mais enfin nous sommes entrés en relation aussi avec un musée en Allemagne où il y a des éléments, des morceaux de vitraux de Saint-Denis qui ont été vendus à ce propriétaire allemand par Alexandre Lenoir, n'est-ce pas ? Donc, tout ça constitue un dossier un petit peu étrange. Alors voilà, donc nous avons d'une part le crâne scié dans les documents descriptifs et deuxièmement, la manière italienne, n'est-ce pas ? Donc ce sont les deux points essentiels du dossier qui ne nous permettent pas de dire que le crâne est à 100%, mais tout près.
99,99 voilà, voilà. Oui. Pour l'instant, où va-t-il être ce crâne ? Que ça va donner ? Est-ce qu'il va retourner à Saint-Denis ou est-ce qu'il
Je ne vous répondrai pas parce que bon, je souhaiterais, en faisant avancer le dossier, effectivement, qu'il retourne à Saint-Denis, mais nous sommes entrés en relation, et dès le début, je dois dire, avec le responsable de la branche aînée des Bourbons, qui est le prince Louis d'Anjou. Bon, donc, prince qui descend de Philippe V. Vous vous rappelez la fameuse phrase de Louis XIV, s'étant décidé à accepter l'héritage pour son petit-fils et le présentant dans la galerie des glaces à tous les courtisans en leur disant, voilà, le comte d'Anjou, il le pousse en avant, voilà, le roi d'Espagne. Et puis cette fameuse phrase de Louis XIV, il n'y a plus de Pyrénées, n'est-ce pas ? Eh bien voilà, il n'y a plus de Pyrénées pour nous, puisque c'est un descendant du duc d'Anjou, de Philippe V, qui est aujourd'hui le chef de la maison de Bourbon, c'est-à-dire véritablement la branche aînée, un homme d'un commerce tout à fait agréable, intelligent, avec lequel nous sommes entrés en relation de très bonne heure, qui a porté un très vif intérêt à cette découverte et l'objet, je dirais, sous sa responsabilité.
Merci beaucoup Jean-Pierre Bablon. Vous avez donné encore le dernier clin d'œil du ver galant qui, à travers les siècles, continue à nous intéresser tous. Au revoir, merci infiniment.
Merci, au revoir.